France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Ça ne vous a pas échappé, c'est un week-end de Pâques, un week-end durant lequel 10 000 adultes, 7 000 adolescents, adolescentes vont recevoir le baptême en France. Un record de catéchumènes dont se félicite l'Église, ravie de ce nouvel engouement des Français pour la religion. Une tendance apparue il y a 4 ans avec surtout la présence d'une jeunesse que l'on croyait éloignée de la chose religieuse. Le téléphone sonne donc ce soir, va s'intéresser à cette divine surprise, pour reprendre l'expression du journal La Croix, qui dans son dernier numéro brosse les profils de cette nouvelle génération inspirée. Et on verra au passage le rôle que jouent les réseaux sociaux qui diffusent les vidéos d'influenceuses, d'influenceurs, parfois d'adolescents qui font le carême. De quoi redonner donc un peu de baume au cœur à cette église douloureusement rattrapée par l'actualité à la faveur d'un livre-enquête qui nous apprend que le Vatican était au courant dès 1955 des agissements de l'abbé Pierre, visé aujourd'hui par des accusations d'agression sexuelle. Y a-t-il de quoi brider cet engouement religieux d'une partie de la jeunesse française ? Cette flamme juvénile ne sera-t-elle qu'un feu de paille ou bien s'inscrit-elle au contraire dans la durée ? À quelles aspirations répondent ces nouvelles conversions ? C'est le thème de l'émission ce soir. Faites-nous part de vos réactions, de vos témoignages, de vos questions. Le standard est ouvert. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec un premier appel au standard. Karl, bonsoir. Vous nous appelez de Loire-Atlantique.
Oui, bonsoir. Je vous appelle de Donge, plus précisément, près de Saint-Nazaire. J'ai été baptisé et j'ai fait ma première communion à la suite d'une démarche personnelle. Et voilà, ça m'a beaucoup touché. Et personnellement, je vois ce regain de ferveur religieuse comme un signe d'espérance et une volonté de témoigner notre joie d'être chrétien au monde. Et voilà, c'est tout petit témoignage que je voulais vous donner.
Mais merci, il est important. Espérance, confiance en soi, je crois comprendre, ça donne aussi, selon vous, du sens à la vie. Avec ce soir, pour vous répondre, trois invités. Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Lou Bémond de Senneville, rédacteur en chef à La Croix, ancien correspondant au Vatican. Et Olivier Zetoun, 24 ans, jeune influenceur évangéliste sur Instagram. Bonsoir à tous les trois. Monseigneur Rouget, on va dire que vous avez peut-être été visionnaire il y a 11 ans, quand vous avez publié le livre intitulé « L'Église n'a pas dit son dernier mot », c'était un petit traité d'antidéfaitisme catholique. Notre auditeur parlait de donner du sens à la vie. Comment vous expliquez ce regain d'intérêt pour la chose religieuse ?
Alors en fait, je pense qu'il s'agit moins d'un regain d'intérêt pour la chose religieuse qu'une un désir de sens et la découverte de la personne de Jésus-Christ. Et alors, Karl était très touchant dans son témoignage. Il faut ajouter aux nombreux adultes et jeunes qui se préparent et qui vont recevoir le baptême à Pâques ou dans le temps pascal, les adultes de plus en plus nombreux qui se préparent à la confirmation et à la première communion, comme Karl dans son témoignage. Et en réalité, moi, ce qui me frappe dans les itinéraires de tous ces adultes et jeunes, que je connais parce qu'ils écrivent tous une lettre à l'évêque, pour demander le baptême, demander la confirmation, demander la première communion. Et bien, dans leurs témoignages, on voit souvent des vies marquées par beaucoup de souffrances, par beaucoup de blessures, par beaucoup de ruptures, et la lecture de l'Évangile, la découverte de la personne du Christ, ce que nous célébrons ce soir, qui donne sa vie jusqu'au bout sur la croix, la passion, la compassion de Jésus pour tout homme, toute femme en souffrance, c'est cela qui touche vraiment le cœur et qui donne de la lumière, de la force, de l'espérance pour avancer.
Olivier Zetoun, vous êtes un jeune influenceur évangéliste sur Instagram, près de 100 000 abonnés vous suivent. C'est quoi la mission d'un jeune évangéliste sur Instagram ?
Alors, la mission principale, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et tout simplement, je fais cela pour encourager les personnes, pour les motiver et pour leur donner un peu de paix, de joie et d'amour, parce que le message de Jésus-Christ, c'est un message d'amour. Il est mort à la croix, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est la Pâque. Il est mort et ressuscité, et j'aimerais transmettre en fait ce message qui a touché mon cœur, et je veux que plein de personnes l'écoutent et expérimente aussi cela, parce qu'il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir.
Transmettre ou faire partager la parole des évangiles, ça veut dire que vous avez lu Matthieu, Marc, Luc et Jean ?
Exactement, j'ai lu les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean, et au-delà des évangiles, il y a la Bible en entière. Et on voit dans les évangiles que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Et c'est vraiment le message principal, c'est la personne de Jésus-Christ, la personne qui change, qui transforme, qui libère, qui guérit et qui sauve l'humanité par sa mort à la croix.
Lou Bémon de Senneville, je rappelle, vous êtes rédacteur en chef à La Croix, ancien correspondant au Vatican. Quand on demande aux nouveaux convertis ce qui était déterminant dans leur conversion, votre journal a fait une enquête qui est publiée ce matin. Eh bien, quand on leur demande leur motivation, ce ne sont pas les prêtres ou les religieux, ce sont les amis.
Oui, alors effectivement, il y a à la fois les amis, qui est une figure déterminante dans le parcours de foi. Alors voilà, les gens ils citent, on a sondé à La Croix à peu près un millier de personnes qui vont être baptisées dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, sur les 10 000. Donc on a quand même un bon échantillon de 10% des adultes. Et donc effectivement, ils citent les amis, le conjoint. Alors le prêtre, c'est quand même 30%.
Donc c'est
quand même un tiers des gens qui ont été frappés par un mot, une rencontre, etc. Mais pour rejoindre un peu ce qui a été dit, ce qui est aussi marquant, c'est que parmi eux, beaucoup évoquent une expérience spirituelle forte, c'est-à-dire soit quelque chose qu'ils ont lu, quelque chose qu'ils ont entendu, mais aussi une épreuve de leur vie, et puis une recherche de sens. Voilà ce que disait Mgr Rouget, on retrouve quand même assez clairement aujourd'hui, et même aujourd'hui les sondeurs, comme le Crédoc notamment, qui est un centre de recherche sociologique sur la société française, confirment bien ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils cherchent du sens et ils mettent un accent particulier sur cet aspect.
Mgr Rouget, sur cette quête de sens, j'ai lu votre tribune aujourd'hui dans La Croix. Cette quête de sens, vous l'attribuez, je cite, au mystère de la croix. Alors, sans vouloir vous enfoncer, Mgr, l'argument semble un peu court peut-être aux oreilles de nos auditeurs qui n'entendent pas forcément ces mystères-là.
Alors, je pense que rien de plus précieux, et Olivier Toul l'a très très bien dit. D'ailleurs, moi, je vous quitterai à 8h10 parce que je vais aller célébrer l'office de la Passion avec de très nombreux fidèles dans la ville de Montrouge où je me trouve ce soir. Cet après-midi, ce même matin, j'ai participé à un chemin de croix dans la ville avec plusieurs centaines de fidèles aussi. Je crois qu'il y a dans l'itinéraire des nouveaux venus, des catéchumènes, des jeunes adultes et puis aussi les confirmants adultes, je crois qu'il y a bien sûr une quête de sens, parfois une quête d'identité, mais le plus profond quand même, c'est de découvrir Jésus-Christ. Et ce qui est essentiel dans le message du Christ, ce n'est pas, ce n'est pas un message démagogique, ce n'est pas un message conquérant, c'est l'amour qui va jusqu'au bout et qui triomphe de la mort et de la haine et du désespoir. Et donc le cœur de l'évangile, c'est ça qui peut toucher. Vous voyez, c'est pas un message compliqué, mais c'est le cœur de l'évangile, c'est que l'amour peut être plus fort que la mort. Et c'est vraiment ça qui aujourd'hui est le trésor que les chrétiens ont à partager. Alors, je voudrais revenir aussi un instant sur ce que vous avez relevé dans l'enquête de la croix en disant tiens, c'est pas les prêtres et les religieux, c'est d'abord les amis. Mais ça, c'est vraiment le message de l'Église. L'Église, c'est la fraternité de tous les baptisés, et tous les baptisés, c'est notamment ce sur quoi nous insistons depuis le Concile Vatican II, ça fait déjà plusieurs décennies, ce sont tous les baptisés qui sont appelés à témoigner de leur foi. Et donc, je pense que ce qui est très intéressant dans ce que nous vivons en ce moment, c'est non seulement qu'il y ait des chercheurs de Dieu qui découvrent le Christ, mais c'est aussi que les chrétiens se découvrent davantage appelés à témoigner de l'Évangile auprès de tous.
Olivier Zetoun, cette rencontre avec Jésus-Christ, elle est née comment chez vous ?
Alors, c'est un peu long, mais si je peux la résumer très rapidement, du coup j'ai...
On a un petit peu de temps tout de même, hein. On va pas faire ça en 2.0, allez-y,
On le fait quand même... je vais essayer de le faire plutôt simple. Alors j'ai grandi 18 ans de ma vie où je suis né d'un papa qui est libanais et d'une maman qui est égyptienne. Ils sont chrétiens, ils m'ont fait grandir dans la foi chrétienne.
Chrétien d'Orient ?
Chrétien d'Orient, exactement. Donc de base, mon père il est catholique du Liban maronite et ma mère elle est orthodoxe de base. Et du coup, j'ai grandi dans une famille, dans un foyer qu'on m'a bien éduqué, dans la foi chrétienne. Et moi, je pensais qu'être chrétien, c'était aller à l'église le dimanche, donc où je m'arrêtais à aller à l'église le dimanche, mais au-delà de ça, je pratiquais pas à fond ce que l'évangile disait, parce que dans l'évangile, on peut voir qu'on doit être chrétien tous les jours de nos vies, mais pas seulement un seul jour, pas un dimanche, et ensuite on refait notre routine. Et un jour, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur la vie. Une petite dépression est venue parce que je ne trouvais pas de sens à ma vie véritable. Et comme il a été dit avant, on veut faire cette expérience avec Dieu. Et c'est vraiment une expérience avec Dieu qui a changé cela pour moi, en tout cas pour ma part à moi.
Et ce déclic, il est venu quand et comment ?
Ce déclic est venu quand j'avais à peu près 19 ans. Avec, en fait, je me posais des questions, un sens à ma vie, et comme on m'a fait grandir dans la foi chrétienne. Alors, tout ce que j'ai appris, c'était de demander à Dieu, en fait. J'ai grandi 18 ans, je faisais des prières qui étaient répétitives, qu'on connaît sûrement, le Notre Père, etc. Mais c'était pas d'un cœur sincère. Mais un jour, j'étais dans une petite pièce, et je me suis dit que, Seigneur, je veux te parler, vraiment avoir une communion avec toi, comme par exemple un couple, un homme avec une femme, ils discutent ensemble, et l'autre répond à l'autre. Je voulais vraiment m'adresser à Dieu avec un cœur sincère. C'était un 1er janvier, un nouvel an. Et du coup, j'ai demandé à Dieu, si tu existes, si tu es réel, je veux vraiment que tu te révèles à moi, je veux vivre cet amour et je veux pas croire à un Dieu des morts, mais un Dieu qui est vivant, qui répond. Dieu m'a pas répondu avec une voix audible, comme ça, comme on peut dire dans les films, etc. Mais j'ai senti dans mon cœur, en fait, un amour qui est inconditionnel, un amour qui ne condamne pas, un amour qui juge pas, mais un amour qui vient vraiment rentrer et percer dans mon cœur. Et à partir de cet instant, je me suis dit, Jésus, je veux te donner ma vie, je veux te suivre, et je veux suivre vraiment ce que l'Évangile veut dire.
Lou Bémont de Senneville, parmi les 17 000 catéchumènes qui seront donc baptisés ce week-end, pour un tiers d'entre eux, vous nous disiez à l'instant, Olivier Zetoun, que l'un de vos parents était chrétien maronite du Liban. Pour un tiers de ceux qui vont être baptisés ce week-end, ils viennent d'une famille certes catholique, mais non pratiquante.
Oui, et un autre petit tiers vient d'une famille qui est indifférente à la religion. Donc voilà, où ça n'existe pas, où ça ne vient pas dans le débat, où ça ne fait pas partie de la vie familiale. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire qu'on arrive à des générations, les générations qui ont aujourd'hui 20-25 ans, de générations qui sont les enfants de ceux qui n'ont pas connu la religion. Et donc, on a vraiment là une sorte de terrain presque vierge,
non foulé, si
on peut dire non foulé. Et donc, en fait, ça repose la question religieuse et ça repose la question de la foi à toute cette génération de manière très différente, parce qu'il n'y a pas soit un anticléricalisme, soit des idées préconçues. Et donc, voilà, toute cette génération se repose la question à frais nouveaux. Et ça, c'est quand même une assez grande surprise. Mais là, il y a un phénomène, effectivement, générationnel fort.
Pardon, 01 45 24 7000, Nicolas nous appelle de Rodez. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Une question ou un témoignage ?
Un état de fait. Moi, je suis en fait assez triste dans la période moderne que l'on vit, que la religion catholique, dont on sait que c'est une construction folklorique qui n'a servi au travers des siècles qu'à opprimer les peuples, les pauvres, lors des colonisations diverses et variées, et aussi à opprimer les femmes, d'ailleurs avec une construction intellectuelle de la Vierge Marie, si vous voulez, comme cette femme qui aurait mis au monde sans faire l'amour, ce qui est un message de culpabilisation à toutes les autres femmes qui puissent faire l'amour. Je suis très stupéfait que cette grande secte puisse aujourd'hui retrouver une certaine aura, vous voyez, alors même où on se rend compte qu'en plus c'était un repère de pervers.
Nicolas, on va mettre beaucoup de guillemets aux mots que vous avez dit ce soir. On a bien compris d'où vous parliez et toutes les critiques qui peuvent pour certaines être entendues concernant la religion. Juste pour mettre les choses au point, Nicolas, je vous coupe un peu la parole brutalement parce que ce n'était pas la question que vous deviez poser et donc forcément j'ai du mal à entendre la question finale. Cela dit, Monseigneur Rouget, cette église, on l'a vu encore dans l'actualité, elle attire les critiques. Comment entendez-vous cela, Monseigneur Rouget ?
Alors d'abord, moi j'accueille ce que dit Nicolas et je suis prêt à tout entendre et à tout accueillir. Et puis je pense que ce qu'il dit exprime aussi une souffrance. Cela dit, je pense que le message du Christ est un message libérateur, que le message du Christ est une bonne nouvelle, qu'il n'est pas toujours vécu aussi pleinement qu'il le faudrait par l'ensemble des chrétiens, qu'il y a des blessures dans la vie de l'Église, et évidemment, aujourd'hui, notre Église catholique en France en particulier, est engagée dans un chemin de vérité, de purification, qui est très important, en effet, pour que l'annonce de l'Évangile soit crédible.
Et Monseigneur, dans l'élan spirituel des néophytes que l'on constate depuis quelques années, quelle approche doit avoir l'Église pour ne pas les faire repartir, justement ?
Alors, c'est un des très grands sujets, cela, de permettre aux néophytes de trouver pleinement leur place dans l'Église, de persévérer après le baptême dans une vie chrétienne qui puisse se développer. C'est tellement important que, avec l'afflux nouveau des catéchumènes, il y a besoin d'une réflexion de fond. Nous avons décidé d'ailleurs en région parisienne, avec tous les élèves de la région parisienne, de consacrer 2 ans de travail commun, ce qu'on appelle un concile provincial, pour aller plus loin dans ce sens. Je pense que ce qui est très important, c'est que les catéchumènes découvrent que l'Église, c'est pas une organisation anonyme, mais c'est une fraternité. Et puis, c'est de faire confiance aux nouveaux baptisés, et assez vite, de leur permettre d'avoir une part active dans la vie de l'Église, soit dans le service des plus pauvres, soit dans la transmission de la foi, soit dans ce qui nourrit la fraternité de la communauté quand elle se retrouve, pour qu'ils découvrent bien qu'ils sont tout de suite des membres vivants à part entière de cette Église à la porte de laquelle ils ont frappé.
01 45 24 7000, le standard du téléphone sonne sur France Inter. Jean-Pierre est en ligne. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Grenoble.
Oui, moi je voudrais juste mettre un petit peu les choses au point, en ce sens que l'athéisme est la seule religion qui soit en progression actuellement, et ça me paraît être la seule façon raisonnable d'entrevoir le problème.
C'est-à-dire, voilà. Pardon, c'est un peu court, l'athéisme seul, avec quel argument ?
L'argument de la raison. C'est-à-dire que tout ce qui est religion fait intervenir des choses qui ne reposent sur strictement rien, et que dès qu'on raisonne un tout petit peu, on remet tout ça en cause et puis on va voir ailleurs, quoi.
Bon, merci de ce témoignage. Merci beaucoup, Jean-Pierre de Grenoble. Lou Bémond de Senneville, c'est vrai qu'on parle ce soir de l'engouement pour la religion chrétienne. Pour autant, est-ce que les églises continuent de se vider ?
Alors, y a un double phénomène, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une diminution notamment des baptêmes d'enfants, qui est quand même assez forte et qui est le signe d'une déchristianisation, pardonnez-moi, assez forte. Et en même temps, c'est vrai que là, tout ce qu'on a constaté ces dernières semaines, ces derniers mois, qui est un remplissage très fort des églises, notamment au moment du mercredi des cendres, vous savez, c'est 40
jours. C'était
au
début du mois de mars.
Exactement, c'est 40 jours avant le carême.
Qui prépare le jeûne.
C'était début mars, absolument.
Le 5 mars.
Et là, beaucoup de témoignages de prêtres, de fidèles qui ont dit les églises sont pleines, de manière un peu surprenante. Donc c'est vrai qu'il y a ce double phénomène. Après, on n'est pas en train de dire que la société française est en train de se re-christianiser à vitesse grand V. Ce n'est pas du tout ça qui se joue. On est dans une société française qui est profondément déchristianisée. Mais voilà, c'est ce qui se joue. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un retour en arrière. C'est quelque chose de nouveau qui est, encore une fois, une génération qui n'a pas été christianisée, qui n'a pas été en contact, parfois ni de près ni de loin avec l'Église catholique et avec la foi chrétienne en général, et qui s'y intéresse à frais nouveaux.
Olivier Zetoun, je rappelle que vous êtes un jeune influenceur évangéliste sur Instagram avec près de 100 000 abonnés. Dans tous ces posts, est-ce qu'il y a l'idée de montrer que vous êtes un chrétien et il faut que cela se voit comme d'autres religions peut-être peuvent l'affirmer également dans les codes vestimentaires pour eux ?
Je pense pas forcément qu'on doit le dire audiblement, que ça doit se voir audiblement, mais ça doit se voir avec notre témoignage de tous les jours, avec notre quotidien. Moi, bien sûr, je suis dans les réseaux sociaux, donc je le dis et tout le monde l'écoute, mais le but d'un chrétien, c'est vraiment que ça soit notre témoignage qui parle plus que nos paroles. Les paroles ne valent rien à côté d'un témoignage, à côté de ce que nous faisons dans notre quotidien. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, c'est que l'amour est plus grand des paroles que nous disons. Mais après, bien sûr, je dois partager l'évangile parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Il veut qu'on nous partageons l'évangile à droite et à gauche et on annonce cette bonne nouvelle de l'évangile.
Monseigneur Rouget, je ne peux pas faire l'impasse. Ce soir, on l'a entendu un peu dans les témoignages à l'antenne. Il y en a aussi qui s'expriment ce soir sur les réseaux et les SMS. Cette église qui est critiquable et qui est critiquée en tout cas, la Conférence des évêques de France a annoncé hier qu'elle allait se rapprocher du Saint-Siège pour obtenir des précisions sur le Vatican qui aurait été informé dès l'automne 55 des agissements de l'abbé Pierre, qui est aujourd'hui visé par des accusations d'agression sexuelle. C'est ce que révèle un livre enquête qui vient de sortir et qui se base sur les archives du Saint-Siège. Est-ce qu'à vos yeux, cette séquence risque d'abîmer un peu plus encore l'Église et durablement ?
Alors, c'est évidemment une séquence extrêmement triste. Je vais y revenir dans un instant, mais d'abord, je voulais, par rapport à ce qu'a dit notre ami de Grenoble, lui dire quand même que ceux qui découvrent la foi sont souvent des hommes et des femmes qui réfléchissent beaucoup. Parmi les plus grands philosophes français de ces dernières années, il y a des chrétiens profondément engagés. Je pense à Paul Ricoeur, je pense à René Girard, je pense à Jean-Luc Marion. Et donc, n'allons pas opposer la raison et la foi. La foi et la raison peuvent faire très bon ménage.
Vous avez raison de le préciser. Concernant notre affaire...
Je reviens à ce que vous dites. Pour moi, comme pour beaucoup, comme pour tous mes frères évêques, les révélations qui ont surgi sur l'abbé Pierre sont une source à la fois de sidération et de consternation. Et nous nous tenons totalement aux côtés des personnes victimes et nous sommes à leur écoute et nous sommes décidés à continuer le travail que nous avons engagé depuis plusieurs années pour que la vérité se fasse et pour que l'Église devienne vraiment la maison sûre qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Alors, il y a, sur cette affaire de l'abbé Pierre, dès le mois de septembre, nous avons décidé avec la Conférence des évêques de France d'ouvrir nos archives. Ce qui, moi, me sidère aussi, c'est qu'il y a eu sur l'abbé Pierre des dizaines de livres et de films faits par des journalistes, des réalisateurs, des gens de toutes sortes d'horizons, et que personne, depuis plusieurs décennies, n'avait mis au jour les scandales terribles que nous découvrons depuis quelques mois. Alors, effectivement, le dernier livre évoque une information qu'avait le Saint-Siège, l'évêque du diocèse concerné, il y a déjà... de très nombreuses années, et dans le communiqué de la Conférence des évêques hier, il a dit il faut qu'on travaille avec le Saint-Siège pour savoir ce qu'il en est et comment les choses ont été si mal traitées pour que nous puissions avancer sur ce chemin de vérité dans lequel nous sommes très profondément engagés depuis plusieurs années, comme d'ailleurs toute la société. Et il s'agit pour nous, comme pour toute la société, de lutter vigoureusement contre toutes ces perversions de la relation humaine que sont les violences sexuelles.
Cela dit, je vais vous laisser repartir parce que je sais que vous avez une célébration ce soir près de Paris. Mais pour terminer sur cette question de l'abbé Pierre, les deux journalistes, elles évoquent, sur la base d'archives du Vatican, une procédure judiciaire qui a été entamée par le Saint-Office donc de la Curie romaine, procédure qui avait été freinée à l'époque par les évêques de France. Et finalement, même enterré 2 ans plus tard, en 57, est-ce que vous regrettez cette intervention à l'époque de quelques-uns des évêques de France ?
Alors en fait, c'est pas les évêques de France, c'est une ou deux personnes à une époque où pratiquement tous les évêques actuellement en fonction n'étaient même pas nés. Donc vous voyez, c'est vraiment un sujet historique très ancien. Mais évidemment, quand il y a un problème à traiter, un drame sur lequel il faut agir, eh bien... Tout ce qui freine l'action légitime, évidemment, je le condamne. Et c'est là-dessus que nous travaillons de manière très déterminée depuis plusieurs années avec tous les évêques de France, et nous sommes bien décidés à continuer.
Merci de cette parole franche, Monseigneur. Avant de vous laisser partir, une dernière question, Monseigneur Rouget. Ce catholicisme d'adhésion, vous pensez qu'il a un avenir, et surtout, de quoi est-il significatif ? On oppose catholicisme d'adhésion par celui d'un catholicisme d'habitude, peut-être ?
Alors, moi, dans le papier de la Croix que vous avez cité aimablement tout à l'heure, et d'ailleurs, Lou Bémont a dit un peu des choses analogues tout à l'heure, je ne dis pas qu'il y a un catholicisme d'habitude. Il y a eu un catholicisme ultra-majoritaire en France, qui est d'ailleurs, il faudrait regarder les choses de plus près, mais c'est vraiment la figure du catholicisme tel que nous l'imaginons depuis le 1850, disons jusqu'à 1950. C'est un moment de l'histoire de l'Église en France, un catholicisme ultra-majoritaire, où il y avait beaucoup de générosité, beaucoup d'initiative, beaucoup de ferveur, mais aussi une telle prégnance que ça pouvait parfois n'être ici et là qu'un catholicisme d'habitude. Ce moment-là de l'histoire, de fait, il est en train de s'effacer. Mais en même temps, surgit, ce que disait Lou Bémont tout à l'heure, quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, c'est ce catholicisme d'adhésion, où il y a à la fois des catholicismes de longue date, des catholiques de longue date, mais qui approfondissent leur appartenance ecclésiale et spirituelle, des néophytes et des recommençants, mais aussi des catholiques qui viennent de toutes sortes de cultures et qui enrichissent beaucoup l'Église en France aujourd'hui, des catholiques de sensibilité plus traditionnelle, mais aussi des catholiques qui sont plus engagés encore qu'autrefois auprès des pauvres ou dans l'écologie intégrale. Et c'est toute cette nébuleuse nouvelle qui est en train de changer le visage de l'Église en France. Non pas un catholicisme numériquement majoritaire, mais un catholicisme qui peut être très significatif et qui peut être non seulement un lieu de ferveur, mais un lieu de proposition pour notre société. Parce que notre société est traversée par beaucoup de violence, beaucoup d'injustice, beaucoup de quête de sens. Et donc, il ne s'agit pas simplement pour l'Église de reconstituer ses forces, mais avec tous ceux qui, aujourd'hui, transforment son visage, d'être une lumière et une proposition pour la société en général.
Et on le sent aussi ce soir dans les questions qui arrivent au standard de France Inter. Merci beaucoup, Monseigneur Rouget, d'avoir pris le temps de répondre ce soir aux auditeurs de France Inter. Je vous laisse aller célébrer l'Office de la Passion.
Merci à vous. Excusez-moi de devoir partir. Et en tout cas, je souhaite d'avance une très bonne fête de Pâques à tous vos auditeurs.
Merci, Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre. 01 45 24 7000. Mathilde est en ligne sur le standard de France Inter. Bonsoir Mathilde.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon témoignage. Alors moi, je suis la maman de 4 enfants et on les a élevés et on continue sans religion, sans lien laïque. Moi-même, je suis engagée plutôt dans l'éducation populaire et solidarité internationale. Et pourtant, deux d'entre eux ont fait le choix de se convertir au protestantisme et même à l'Église évangélique. Et pour nous, ça a été un grand bouleversement parce qu'on ne l'a pas vu venir et on a assisté à leur baptême. Et pareil, on n'a pas vu venir aussi cet engagement qui traduisait aussi une souffrance d'adolescent qu'on n'a pas vu venir. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais ça a été l'occasion pour nous de discuter de plein de choses, de la vie, de la mort, de la loi des hommes, de la loi de Dieu. Alors moi, je suis allée voir le pasteur parce qu'ils étaient mineurs à ce moment-là. Donc je voulais que les choses soient très claires sur mes propres convictions, sur l'avortement, sur les vaccins, sur les droits de la place des femmes, des enfants, etc. Donc j'ai pu discuter avec leur église, ça s'est très bien passé. Mais c'est perturbant de vouloir élever ses enfants dans des convictions plutôt d'émancipation, plutôt laïques, républicaines, et de voir que ça n'a pas apporté les réponses dont ils avaient besoin à ce moment-là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce beau témoignage, Mathilde, avec une éducation que vous aviez faite laïque et deux enfants. On souhaitait se consacrer à l'Église protestante. Olivier Zetoun, vous êtes jeune influenceur évangéliste, donc protestant. Pourquoi l'Église protestante plutôt que l'Église catholique d'ailleurs ?
Moi, je suis pour l'unité des chrétiens, pour savoir, parce que souvent l'homme met des barrières, etc. Mais pourquoi j'ai pris ce choix ? C'est parce que tout simplement, en fait, c'est tout simplement mon témoignage de ma vie quotidienne qui m'a dirigé ici, plus que dans l'Église catholique, mais je suis ouvert à être avec tout le monde, avec tous les chrétiens. Je ne suis pas fermé, c'est juste qu'il y a quelques petites différences.
Vous êtes, cela dit, prédicateur de l'Église réformée ?
Non, je suis prédicateur de l'Évangile tout court, de ce que Jésus-Christ nous dit. Et par rapport à ce que la maman disait juste avant, les enfants étaient touchés, et moi c'est ce que j'ai reçu moi. Il y a un verset qui dit dans Matthieu, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Et souvent si nous-mêmes on demande à Dieu de se révéler à nous, il nous donne un repos véritable que le monde ne peut pas donner. C'est un repos qui est merveilleux, qui est magnifique, et Jésus peut vraiment toucher le cœur de chaque personne, il peut nous remplir de son amour. Et Dieu dit qu'il nous a tant aimés, il a aimé le monde entier, afin qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et donc vous vous sentez l'âme d'un missionnaire.
Exactement, si on peut le dire comme ça.
Lou Bémond de Senneville, on parlait avec Monseigneur Mathieu Rouget tout à l'heure de la notion de catholicisme d'habitude. Ça va appartenir à une génération et ça va peut-être même disparaître, ce catholicisme d'habitude. On va peut-être se concentrer plus vers un catholicisme d'adhésion.
Oui, un catholicisme d'adhésion et puis quelque chose qui relève plus de la contre-culture, vous voyez, parce que le choix du catholicisme, aujourd'hui, il est à l'inverse du fait majoritaire. Ce qui était exactement l'inverse de ce qu'on a connu il y a 50 ou 60 ans. Donc, il y a la mise en place de réflexes pour certains contre-culturels, c'est-à-dire de vouloir se définir comme catholique avec une place plus importante de la religion, aussi une volonté de dire son catholicisme et sa foi de manière beaucoup plus forte. C'est exactement l'inverse de ce que faisaient les catholiques dans les années 50-60, avec une stratégie plutôt de l'enfouissement, pas pour se cacher, mais pour dire, voilà, on est au sein de la société et on agit au sein de la société sans forcément le dire. Là, aujourd'hui, les gens qui reçoivent le baptême, ils ont, c'est pas une stratégie, mais ils ont une manière d'être qui est beaucoup plus explicite. Alors, il y a la contre-culture et puis il y a aussi une identification à l'islam avec des musulmans qui aujourd'hui n'hésitent pas à dire leur foi et donc les nouveaux catholiques qui arrivent aujourd'hui dans l'église, ils disent voilà, nous aussi il faut qu'on puisse le dire.
Olivier Zetoun disait que non, ce n'est pas parce que d'autres religions affirment et montrent leur foi que moi je viens montrer ma foi dans l'audible.
On ne doit pas le montrer parce que les autres le montrent, mais on doit le montrer dans notre quotidien, c'est deux choses différentes. On doit être un témoignage dans notre quotidien. Après bien sûr, on le partage pas parce que les autres le font, mais parce que Jésus-Christ nous a dit avant de partir, allez faites de toutes les nations des disciples, allez prêcher la bonne parole au monde entier quoi. Donc on doit annoncer cet évangile au monde entier, parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Bien sûr, par amour et dans la paix, bien sûr.
Et l'humour, pour vous, est important dans vos postes ?
L'humour ?
L'humour.
Oui, l'humour est important dans mes postes. Oui,
l'amour, évidemment.
L'humour. Exactement. Les deux ensemble, parce que je m'adapte avec un public qui est jeune. Souvent, un jeune va plus parler à un public jeune et une personne âgée avec plus une personne âgée. Et mon public, c'est plutôt la jeunesse, c'est ce que je veux transmettre. Quand on est jeune, on va écouter des personnes comme moi. Enfin, c'est pas pour dire qu'un prêtre ou un pasteur est souvent strict, mais souvent on a l'image d'un pasteur et un prêtre strict, et ce qui n'est pas du tout le cas. Et je veux montrer vraiment que l'évangile est vraiment ouvert à tous et qu'il n'a pas de barrière et que on a un évangile où Dieu est vraiment et pour l'amour et l'humour aussi. Voilà.
Et l'humour, est-ce que vous allez jusqu'à rire de la religion ?
Non, jamais. Enfin, on peut rigoler sans aller. Enfin, il y a des limites quoi. On va pas aller plus loin de ce que Dieu nous a dit quoi. Enfin, faut respecter aussi ce que Dieu nous met quoi.
Marine est en ligne. Bonsoir Marine.
Oui, bonsoir.
Quelle est votre question ou témoignage ?
Voilà, non, pas un témoignage, une question. Est-ce que aussi le retour à la religion serait pas un peu corrélé à un retour du masculinisme, du patriarcat, voire de l'anti-wokisme ?
Merci de cette question brève et je vais soumettre la question à Lou Bémont de Senneville, rédacteur en chef à La Croix. Le retour à la religion, c'est le retour du masculinisme ?
Alors il n'y a pas vraiment de données sur cette question, c'est-à-dire qu'entre l'anti-wokisme, ce qui évoque notre auditrice, et le retour à la religion, il n'y a pas de données à ma connaissance sociologique sur cette question. Donc voilà, je ne peux pas
répondre précisément. Non, mais en revanche, dans l'enquête que vous avez menée à La Croix, que viennent chercher les jeunes dans la religion et dans le baptême en particulier ?
Alors, ils viennent chercher, ça c'est quand même assez intéressant, ça on peut répondre à cette question à travers ce qu'ils viennent chercher dans l'Église. Comment ils voient l'Église ? C'est-à-dire qu'ils viennent chercher, ils définissent l'Église comme un phare qui montre le chemin dans les ténèbres. En gros,
ça, c'est l'Évangile.
Oui, et c'est aussi une recherche de repères. C'est-à-dire, c'est une recherche de repères, c'est une recherche de structure, et ça, c'est vraiment lié à ça. En revanche, ils le voient moins comme un hôpital de campagne qui accueille tous les blessés de la vie. Vous voyez, ça, c'est la définition de l'Église catholique par le pape François. Mmh. Ils le voient plus, effectivement, comme un ensemble de repères qui peut les aider à structurer leur vie et à lui donner du sens.
L'Église perçue comme un chemin de lumière, un phare au milieu des ténèbres, est-ce que ça reste encore un repère chez les nouveaux convertis, malgré les scandales sexuels, qu'on a évoqués d'ailleurs sans langue de bois, je crois, avec Mgr Mathieu Rouget ?
Oui, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que quand même, cette question des scandales sexuels au sein de l'Église catholique, elle est absolument partout, sur toutes les antennes, dans toutes les têtes, depuis 3 ou 4 ans maintenant, de manière très forte. Elle l'était aussi avant, mais elle l'est encore plus fortement, avec ce rapport de la CIAZ, vous savez, qui est sorti il y a quelques années, avec des chiffres absolument effarants. Et pourtant, eh bien ça n'a pas freiné cette espèce de vague de conversion, de baptême auquel on assiste aujourd'hui. Donc il y a plusieurs interprétations. Hein. Alors, dans une interprétation spirituelle, certains disent que c'est parce qu'on a nettoyé les écuries d'Augias que voilà, cette vague arrive aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un frein
aux conversions, et ce n'est pas un frein à ces baptêmes auxquels nous assistons par milliers cette semaine.
Olivier Zetoun, y a-t-il aussi sur Insta ou sur TikTok des influenceurs qui œuvrent pour des obédiences politiques, d'extrême droite notamment ?
Oui, ça peut arriver. Il y a des personnes qui mettent leur point de vue sur la politique, sur l'extrême droite ou autre. Mais moi, je n'ai pas forcément envie de rentrer dans ces détails. Je trouve que ça, c'est
non,
plutôt...
Non, mais vous les croisez sur Instagram.
Oui, je les croise. Mais c'est plutôt que je voulais dire, c'est plutôt personnel à chacun. C'est leur manière de faire. Mais moi, en tant que chrétien, je ne pense pas qu'il faut forcément nous dire aux gens d'être pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. Ça, c'est un choix personnel. Moi, je veux juste annoncer l'évangile, ce que Jésus-Christ a dit.
Voilà. Une dernière question, et pardon, il reste 20 secondes. Lou Bémond de Senneville, est-ce que l'islam a tendance en France à devenir la religion de référence chez les jeunes, comme l'affirme Yann Raison du Clésiou, chercheur en sciences politiques, cité par votre journal ce matin?
Je ne sais pas si c'est une des religions de référence. En tout cas, c'est une religion très fortement présente dans l'espace public. On le voit notamment avec le ramadan, qui est quand même très présent dans l'espace public parce qu'il est présent dans la vie sociale.
Eh bien, merci d'être venu répondre aux questions des auditeurs. Le téléphone sonne, c'est terminé.